Alors, comme vous l'avez vu, le titre n'est pas produire la vie, produire sa mort. Ça, c'est une deuxième partie qui est plus provocatrice. Le titre, il commence plutôt par des questions. Hein, quelle parole chrétienne dans ce débat bioéthique actuel? Quel témoignage chrétien nous pouvons apporter? Ça sera le fond de ma réflexion. Alors, le théologien anglican John Stott parlait de la nécessité de la double écoute, l'écoute de Dieu et l'écoute de ce monde dans ses cris de colère, anger, pain and despair, tristesse et désespoir. Nous devons à la fois écouter ce que nous dit Dieu et aussi écouter ce monde pour pouvoir parler de Dieu à ce monde. Alors, chers frères et sœurs, je vous invite ce matin à une minute d'introspection. Avec quelle question venez-vous? Quelle est la question qui vous travaille par rapport à ces questions de vie et de mort? C'est ça la bioéthique. Bios, c'est la vie, et éthique, c'est la question des choix moraux par rapport à la vie et la mort. Ça ne laisse personne indifférent. Voilà, quelle est la question qui vous travaille? Et ensuite, sur quelle parole de Dieu vous appuyez-vous pour tenter de répondre à cette question? Ou peut-être que vous n'avez pas de parole. Peut-être que vous êtes comme Job, que Dieu est muet pour vous dans votre situation, dans votre questionnement, et que vous êtes en attente d'une parole. Dans ce cas, je vous invite, cheminons ensemble à l'écoute de l'Écriture, car si je n'ai pas les réponses, j'ai foi que Dieu, en Jésus-Christ, vous répondra. Se poser clairement la question qui nous travaille et l'apporter au Christ, c'est aussi le chemin pour en sortir, car nos questions peuvent nous empêcher d'écouter Dieu et d'écouter notre prochain. Ces questions qui nous bousculent viennent aussi peut-être de notre entourage ou de nos contemporains, ces prochains, pas si lointains, même s'ils nous paraissent étranges dans leur choix. Ce sont ces demandes d'enfants de la part de couples de femmes homosexuelles ou de femmes seules, ces demandes d'avoir accès à l'assistance médicale à la procréation. Ce sont ces demandes de mort, d'avoir accès à une mort sur demande, l'euthanasie, le suicide assisté. Ce sont ces personnes qui vont en Suisse pour bénéficier de cette assistance au suicide. Voilà aussi qui vient bousculer notre foi, nous questionner. Manifestement, vous avez décidé que ces questions concernent aussi les églises, que les chrétiens ne sont pas à l'abri de ces questions et de ces questionnements. Alors, cette méthode, commencer par me poser la question qui me travaille, je me l'appliquerai à moi-même. Qu'est-ce qui me travaille? Ce qui me travaille, c'est ce désir fou de maîtriser la vie et la mort qu'on observe dans nos sociétés. Et la parole de Dieu qui me revient, qui est enfoncée comme un clou dans mon cœur, c'est celle du Deutéronome. Maintenant donc, voyez que c'est moi seul qui suis Dieu, et qu'il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Moi, je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Moi, je fais vivre et je fais mourir. Cette parole est enfoncée comme un clou dans mon cœur. Il y a 30 ans de cela, ma femme et moi, nous attendions un enfant. qui avait de gros problèmes de développement, même s'il était normal, entre guillemets, et, d'après les médecins, est viable. Et donc, ma femme devait accoucher par césarienne à 8 mois et demi. Et la veille de cet accouchement, tout allait bien. Mais le lendemain, avant de faire la césarienne, le médecin a fait un monitoring et le cœur du bébé ne battait plus. Et là, le médecin a dit à ma femme, la vie et la mort, c'est Dieu qui décide. Ma femme s'est dit, si ce médecin qui ne me connaît pas me dit cette parole que je sais, c'est donc que c'est Dieu qui me parle. Et j'en reparlais avec elle, elle me disait, on sait, voilà, on sait que c'est vrai, mais il faut le vivre. Le livre du Deutéronome dit d'ailleurs, prenez à cœur toutes les paroles de cette loi dans ce chapitre. C'est moi qui fais vivre et c'est moi qui fais mourir. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dit Dieu à son peuple, c'est à son peuple que Dieu s'adresse dans ce cantique de Moïse. Oublies-tu que c'est moi qui te fais vivre et qui te fais mourir? Et ce cantique annonce l'infidélité du peuple qui atteindra des sommets, qui se tournera vers des idoles, qui se détournera de Dieu et qui sera comme Sodome et Gomorre. C'est assez déprimant, cette lecture, je dois dire, du chapitre 32. Tout cela parce que le peuple s'est enrichi, engraissé. Il a pensé qu'il n'avait plus besoin de Dieu et qu'il pouvait s'appuyer sur ses idoles visibles. Alors, les idoles, ce n'est pas que pour les autres. Et il est frappant que dans le Nouveau Testament, la première lettre de Jean se termine de façon assez abrupte par cette interpellation aux chrétiens. « Petits enfants, gardez-vous des idoles !» Les idoles, c'est au fond tout ce qui vient prendre la place de notre confiance en Dieu. C'est moi qui fais vivre et c'est moi qui fais mourir, dit Dieu. Alors, c'est vrai que cette affirmation, elle vient être bousculée, cette affirmation de la toute-puissance divine, par le développement des techniques médicales et biologiques. Techniques qui permettent de maintenir en vie des personnes qui sinon seraient mortes, techniques qui permettent la mise au monde d'enfants, certains disent la fabrication d'enfants, avec l'aide de techniques d'assistance médicale à la procréation. Alors, cette technique est quand même très limitée. Passer 40 ans pour la femme, un couple sur deux qui recourt à ces techniques, eh bien, n'aura pas d'enfant. Il y a un taux d'échec très important de ces techniques d'assistance médicale à la procréation. Et si la médecine peut maintenir en vie, elle ne peut pas rendre la vie et restaurer parfois la vie dans sa totalité. Mais aujourd'hui, dans l'esprit de nos contemporains, et peut-être aussi dans le nôtre, la technique est devenue une idole qui remplace Dieu, et les médecins remplacent les prêtres. Je me rappelle d'un médecin qui disait qu'à un moment donné, dans l'histoire de la mort, de la fin de vie, il y a un basculement au XVIIIe siècle. Jusqu'au XVIIIe siècle, c'est le prêtre, la personne centrale de la fin de vie, c'est le prêtre. Et quand le mourant voit arriver le prêtre, il sait qu'il va mourir. Et c'est un médecin qui le dit, c'est pas moi, docteur Isabelle Marin, elle dit, il y a un moment où ça bascule, et le prêtre sort de la scène de la fin de vie et entre le médecin. et avec lui, le mensonge. Parce que lui ne va pas lui dire qu'il va mourir. Donc, voilà, ces changements où, effectivement, la foi en la médecine et la technique viennent se substituer à la foi chrétienne. Le philosophe Jean-Paul Thomas, dans son livre « La médecine, une nouvelle religion », affirme que la médecine devient une religion non pas quand elle cesse d'afficher sa scientificité, son caractère scientifique, mais au contraire lorsqu'elle est portée par un rêve de scientificité absolue, de connaissance, de maîtrise, de pleine maîtrise du vivant. C'est dans ce projet même qu'elle devient une religion. Alors, les religions, ce sont des idoles qu'on se construit, mais la réalité, la vie, résiste à nos projets. Vous savez que pour l'assistance médicale à la procréation, on parle de projet parental. Et quand un embryon congelé n'a plus de projet parental, eh bien voilà, il n'est plus personne. Mais Dieu est au-delà de nos projets et notre vie ne dépend pas que de nos projets, elle ne dépend pas du tout d'ailleurs de nos projets humains. Et la technique médicale se heurte parfois à des résistances. Il y a un article dans la revue Esprit de la philosophe Catherine Malabou qui s'intitule « Résistance biologique, résistance politique ». C'est assez étonnant ce titre « Résistance biologique, résistance politique ». Elle veut dire par là qu'il y a des phénomènes naturels qui font que la volonté, le pouvoir, ce qu'elle appelle le biopouvoir de l'homme, rencontre une résistance. Alors elle parle de résistance biologique, moi je dirais plutôt résistance de la nature. La nature résiste, et au fond la création de Dieu résiste à nos prises de pouvoir. Alors, la grande difficulté, c'est comment dialoguer avec notre monde qui a pour idole le pouvoir de la médecine et de ses techniques. Alors, John Stott recommande d'écouter les cris de ce monde, les cris de colère, mais écouter ne veut pas dire forcément approuver, mais chercher à comprendre. Je voudrais donner un exemple. Vous avez sans doute entendu parler de la philosophe Judith Butler. On dit que c'est la créatrice de la théorie du genre. Ce n'est pas tout à fait exact. En fait, elle va. Donc, l'idée de genre, c'est l'idée que le sexe est une réalité sociale construite. Alors, bien sûr, il y a une partie, comme toujours, dans les mensonges, il y a une demi-vérité, c'est-à-dire que notre conception de l'homme et de la femme, bien sûr, il y a un aspect culturel construit. On n'a pas la même conception de la femme au Moyen-Orient qu'en Occident. Donc il y a bien une réalité sociale construite, mais elle n'abolit pas pour autant la réalité biologique, naturelle des sexes. Judith Butler, dans son livre s'intitule « Troubles dans le genre ». Elle critique cette notion justement sociale de genre pour le déconstruire. Et j'ai essayé de comprendre quel était le fond au fond de sa motivation. Et dans une interview qu'elle a donnée à la revue Philosophie Magazine, il y a quelque chose qui m'a éclairé. Il y avait comme un cri dans cette interview, un cri en disant « Mais est-ce qu'on ne peut pas être reconnu, avoir sa place, sans être identifié comme un homme ou une femme ?» Et là, je pense avoir essayé de comprendre la motivation de sa philosophie, c'est qu'elle, qui est homosexuelle, qui est d'une apparence très androgyne, qui est dans la catégorie, elle se classe dans la catégorie queer. Vous savez, dans le monde anglo-saxon, la catégorie queer, c'est voilà, homosexuel, transsexuel, travesti, etc. Bizarre, ça veut dire bizarre. Donc cette catégorie marginaux qui n'a pas de marginaux qui n'a pas sa place dans notre société. Et je me suis dit que nous, chrétiens, oui, nous pouvons reconnaître la personne en image de Dieu, d'abord comme un être humain, avant de la cataloguer ou la discerner comme homme ou femme. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça abolit notre caractère d'être sexué, homme ou femme, mais ça veut dire que la première chose qu'on reconnaît chez une personne, c'est qu'elle est un être humain en image de Dieu. Donc on peut au fond, cette personne qui a construit une théorie parce qu'elle est mal dans notre société, qu'elle ne supporte pas ce qu'elle estime être une norme sociale, hétérosexiste, dit-elle, eh bien, c'est son problème de trouver sa place dans ce monde. Et on peut reconnaître à ces gens marginaux leur place en tant que personne, en tant qu'être humain, en image de Dieu, même s'ils viennent nous déranger voilà, par leur apparence. Alors, quelles sont les bases d'un dialogue avec ce monde ? Il me semble que, monde non chrétien, il me semble qu'on pourrait donner trois bases. La création, c'est une nécessité bonne que de respecter un certain ordre naturel. Alors, au niveau catholique, on parlera d'écologie humaine ou d'écologie intégrale. Et je trouve que c'est tout à fait juste. L'être humain, dans ses relations, est aussi un être de nature. La première nature que nous avons, c'est d'avoir un corps. Nous ne sommes pas de purs esprits. Et nous faisons partie de la création. Donc, respecter des équilibres naturels, une écologie humaine. La conscience, nous pouvons faire appel à la conscience des personnes dans notre dialogue. L'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. Alors, c'est vrai que cette conscience, c'est une conscience brouillée hein, par le péché, mais on peut essayer de la réveiller, cette conscience. Et enfin, nous ne sommes pas isolés dans la société. Nous ne pouvons pas rester passifs devant des injustices sociales, qu'elles concernent l'accueil des migrants ou le sort des petits-enfants à naître. Défend le droit des malheureux, Proverbe 31, verset 9. Et cette nécessité de la justice, elle va de pair avec la nécessité d'institutions justes, car si nos lois instituent de mauvais fonctionnement, eh bien, ça vient perturber la société et la justice. On ne peut pas dire, voilà, c'est une loi qui ne concerne que certaines personnes. Donc, tant que ça ne me dérange pas, eh bien, je ne m'en occupe pas. Je crois que c'est absolument, cette passivité n'est pas du tout chrétienne. Mais notre parole doit toujours s'originer dans la parole de Dieu. Nous devons écouter ce monde, oui, mais d'abord écouter la parole de Dieu et non la parole de ce monde. Il y a une fausse présence chrétienne à ce monde qui est une mondanisation de la parole de l'Église. Et cette parole mondanisée plaît beaucoup parce qu'elle va redire avec des mots chrétiens ce qui est en fait le discours du monde. Et ça va beaucoup plaire au monde, parce que ça va le confirmer dans son, endurcissement, sa révolte contre Dieu. Alors je préfère la traduction de la Bible à la colombe, parce qu'elle elle rend mieux le ek, plus génitif d'origine, hein, voilà pourquoi leurs paroles viennent du monde. Ça, hein, les paroles de ces faux prophètes viennent du monde. Et j'aimerais donner une illustration de cela avec un petit extrait d'une